Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, un petit détail pratique. J'espère que l'acoustique est bonne, qu'il n'y aura pas trop d'écho et que vous pourrez suivre dans d'assez bonnes conditions. Alors, bonjour à tous et merci au Père Lagrange qui m'a fait confiance pour cette petite causerie. On va être modeste, hein. Ce n'est pas une grande conférence, une petite causerie, une petite méditation. Merci à Monseigneur Rivière qui me laisse un premier temps de parole, à moi qui ne suis ni théologienne, ni religieuse, ni historienne. Qui suis-je finalement ? Bon, simplement, je dirais, une paroissienne, déjà depuis plus de 50 ans, de cette bonne et belle paroisse du Sacré-Cœur en Val-d'Or, mère et grand-mère de famille, et un peu amie de la sagesse, c'est-à-dire philosophe. Alors, ma petite méditation de ce matin partira de cette considération qui est quand même assez étonnante quand on prend le temps de réaliser cela. Est-ce que nous réalisons bien que c'est ici, chez nous, à Paray-le-Monial, que se trouve en quelque sorte l'origine de deux grandes dévotions, la dévotion au Sacré-Cœur grâce à Marguerite Marie et la dévotion au Christ roi grâce en partie à Marthe de Noailles. Et la providence, elle est toujours là, la providence. La providence a fait que les deux jubilés se conjuguent et se renforcent mutuellement. Les 350 ans des grandes apparitions du Sacré-Cœur à Marguerite Marie et les 100 ans de l'institution de la fête du Christ-Roi par le pape Pie XI en décembre 1925. On est vraiment là dans le centenaire de cette fête. Or, l'institution de cette fête, la fête du Christ-Roi, résulte très largement de l'extraordinaire détermination de Marthe de Noailles et de son époux aussi. N'oublions pas les époux quand même. On oublie souvent les épouses. Cette fois, je voudrais quand même, en passant, ne pas oublier non plus l'époux. Donc, mais quand même, Marthe de Noailles, qui a travaillé à ce projet, ici à Paray, de 1919 à 1925. Alors, mon bref exposé se divisera en deux temps. Tout d'abord, je rappellerai le travail effectué par Marthe de Noailles pendant les 6 années. Alors, je m'excuse un petit peu auprès de ceux et celles qui m'auraient déjà entendu hier soir. Je vais faire beaucoup plus court sur cette partie. Je vais faire un abrégé sur cette vie. Hier soir, on s'est un petit peu étendu sur la biographie de Marthe de Noailles, d'autant qu'il y avait là des personnes de sa famille qui étaient, je le signale en passant, ça m'a fait grand plaisir, elles ont été très heureuses de découvrir que dans leur famille, il y avait quasiment une sainte. Figurez-vous, ce n'est pas toujours dans sa famille, vous savez, qu'on est le mieux reçu. Eh bien, ils ignoraient pratiquement tout de la vie de cette arrière aïeule. Voilà, nul n'est prophète dans sa famille, il faut croire. Alors donc, je donnerai quand même dans une assez courte, j'espère, première partie, quelques considérations sur la vie et l'œuvre de Marthe de Noailles. Et ensuite, dans la deuxième partie, je vous livrerai quelques réflexions d'ordre philosophique. Oui, je ne peux pas me sortir de la philosophie, d'ordre philosophique que m'inspire le thème du Christ-Roi. Et j'avoue que je me fonde en partie sur saint Thomas d'Aquin, une bonne référence, saint Thomas d'Aquin, à la fois un mystique, un saint, un philosophe, donc c'est une excellente référence. Et saint Thomas d'Aquin disait qu'il reprenait, entre guillemets le mot, par la raison, les dogmes et les mystères de la révélation. Reprendre par la raison les dogmes et les mystères de la révélation, ça veut dire reprendre par la raison, par la méditation et entre autres par la raison philosophique. Donc je suis déjà justifiée dans ce que j'ai fait en me référant à saint Thomas d'Aquin. Je vais reprendre par la raison ou par la méditation le thème du Christ roi. Alors donc, tout d'abord, un petit temps sur Marthe de Noailles, ses dates 1865-1926. Que s'est-il donc passé ici, à Paray-le-Monial, principalement entre 1919 et 1925, et cela grâce à Marthe de Noailles. Bon, je répète, Marthe et Georges de Noailles. Et puis, car c'est quand même le fruit de leur étroite collaboration qui s'est réalisée. Mais toutefois, parce que Marthe s'est donnée à ce projet avec une passion et une détermination sans égale, c'est sur elle que j'aimerais attirer l'attention. Donc Marthe de Noailles, née Marthe de Vins en 1865, elle naît dans une famille nivernaise, donc c'est une bourguignonne, famille nombreuse, elle a 6 frères et elle a 2 sœurs, et c'est une famille très pieuse. Le père est avocat, parle très bien, et sa fille va hériter de ce don. Alors elle a cru très tôt qu'elle avait la vocation religieuse. Et elle a tenté à plusieurs reprises, alors c'est très touchant je trouve, parce que pendant 6 ou 7 ans, elle va vraiment s'efforcer de rentrer au monastère et d'y rester. Et à chaque fois, elle est obligée de quitter. Elle est obligée de quitter parce que sa santé ne tient pas le coup. Elle tombe très rapidement malade, elle est obligée de rentrer chez elle. Ça va mieux, elle retourne, et à chaque fois, ça se finit mal. Donc, elle croit que là est sa vocation. Apparemment, non, ce n'était pas sa vocation. Donc, c'est une fausse vocation, disons. Elle est obligée de renoncer dans de très grandes souffrances et de très grandes inquiétudes. Que vais-je donc faire de ma vie ? Mais alors, elle se découvre une âme d'apôtre pour se porter au secours des pauvres, des malheureux, des étrangers, des incroyants. Elle court après les gens pour les convertir, y compris les domestiques de la maison, y compris les gens de son village, Villiers-sur-Lyonne, y compris les gens de Clamecy, pour leur dire comment vous n'êtes pas baptisé, vous n'avez pas fait votre communion, vous allez mourir, etc. Et elle les secoue un peu, à tel point que certains la traitent de sectaire, de folle, d'hystérique, mais les saints reçoivent souvent ce genre de critiques. En tout cas, ça montre sa vocation apostolique. Et elle montre aussi des dispositions remarquables pour l'enseignement. Elle va être appelée à enseigner à Paris, au cours Bossuet, et ça se passera très très bien. Elle est douée aussi pour l'enseignement. Elle a une très grande culture, elle parle le latin couramment, elle lit son bréviaire tous les jours en latin, elle connaît absolument les pères de l'Église, enfin, tout ce que l'on peut connaître dans ce domaine. Elle s'engage dans de nombreuses œuvres paroissiales ou diocésaines, partout où elle passe, à Villiers-sur-Yonne, à Quincy, là où habite la famille, le château de Quincy est entre Villiers-sur-Yonne et Clamecy, à Paris, quand elle est à Paris, à Nevers, parce qu'elle va passer 6 ans à Nevers, après la dernière sortie du couvent. Que faire ? C'est à ce moment-là qu'elle va dans un premier temps à Paris avec sa mère et sa sœur, puis sa mère lui offre une maison à Nevers en lui disant « Écoute, va te reposer là-bas ». Se reposer, Marthe ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, arrivée à Nevers, elle s'installe dans la maison en question et immédiatement, elle s'adonne à de nombreux apostolats, là encore, à toutes les paroisses qui veulent bien d'elle, et il y en a toujours beaucoup, et elle s'engage donc dans de nombreuses œuvres. Et puis, elle va rencontrer alors Simone et Georges de Noailles, la sœur et le frère, et cette rencontre va être à l'origine d'une étroite collaboration intellectuelle et d'une profonde entente spirituelle. Georges de Noailles, est un jeune avocat parisien, vice-président de l'Association de la jeunesse catholique de Paris. Et il va devenir un familier du Hiéron et du fameux baron de Sarachaga. Marthe, de son côté, devient une conférencière renommée pour la Ligue patriotique des Françaises. Alors cette Ligue patriotique des Françaises, il faut la situer dans ce début du XXe siècle, dans un contexte où la lutte contre la religion, et entre autres contre la religion catholique, est extrêmement vive. Ce sont les lois contre l'Église, la séparation des Églises et de l'État, etc. Et c'est pour lutter contre ce laïcisme triomphant et fanatique que se fonde, entre autres, la Ligue patriotique des Françaises. Et là, Marthe trouve une certaine vocation dans des tournées de conférences. Elle va faire des tournées de conférences dans toute la France, accompagnée de Simone, donc celle qui deviendra sa belle-sœur. Et à chaque fois, elle va chercher à défendre la France chrétienne, la patrie, l'Église, la famille. La patrie, l'Église, la famille. Mais le mariage de Simone en juin 1911 entraîne la séparation du trio qui marchait si bien, Simone, Georges et Marthe. Et puis finalement, avec l'accord de leur directeur spirituel et une méditation et des prières, Georges et Marthe décident d'unir leur vie et de se marier. Mais dans ce mariage, Marthe demande à conserver ses vœux religieux qu'elle avait faits quelques années plus tard, c'est-à-dire la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Et ce vœu, entre autres, de chasteté sera maintenu dans ce mariage, qui sera donc un mariage que l'on dit joséphin, c'est-à-dire sans l'acte sexuel, avec la volonté des deux époux et la mise en commun, je dirais, de leur prière, de leur vie spirituelle, au service avant tout du Christ et de Dieu. C'est très beau d'ailleurs les prières qu'ils vont avoir l'un et l'autre et les démarches qu'ils vont faire ensemble. Donc, les voilà partis ensemble, un beau duo. En 1908, le baron de Sarachaga quitte Paris et Georges de Noailla est nommé directeur. Le baron de Sarachaga lui confie la direction du musée du Guéron et de tout ce qui s'y passe. Alors, il se passe en fait beaucoup de choses dans ce musée, je n'ai pas le temps de le dire maintenant, mais entre autres, il y a un projet qui est un petit peu en parenthèse, enfin qui est là depuis que le père Jean-Marie Sanas Solaro, jésuite de Turin, qui était de passage à Paray-le-Monial, en avait fait part au baron de Sarachaga, c'est-à-dire la fête de Christ roi. On est en 1881. Mais le père Solaro, s'appuyait sur la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Il se référait aussi à de nombreuses référence de l'Ancien et du Nouveau Testament. Parce que le thème du Christ-Roi est un thème, j'allais dire, aussi vieux que les Écritures. Donc on le trouve en filigrane partout, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est pas ça qui sera nouveau dans cette fête. Ce sera l'institution officielle de la fête qui sera faite en 1925. Mais non pas l'idée même, le thème même. Donc le père Sonas Alaro, Solaro a cette idée, mais l'idée n'est pas retenue, et donc elle est là en suspens. Il avait pourtant adressé une supplique au pape Léon XIII pour l'instauration de cette fête, mais le souverain pontife n'avait pas alors jugé l'idée opportune. D'ailleurs, on va voir dans l'histoire des Noailla, continuellement, les papes, ils n'ont pas l'air pressés, ils n'ont pas l'air de trouver l'idée aussi importante que cela. Il faudra continuellement que le couple Noailla revienne en quelque sorte à l'assaut, apportant à chaque fois des arguments, des preuves, des pétitions pour que finalement on arrive à cette fête. Alors en effet, c'est ce à quoi, alors après la guerre, 1919, les époux s'installent définitivement à Paray-le-Monial au Guéron et se consacrent, on peut dire totalement, à ce que soit établie cette fête du Christ-Roi, à ce que soit instituée la fête du Christ-Roi. Et alors, ça va être un travail colossal qui va s'opérer, parce que, comme je dis, ils vont aller à Rome. Combien de fois les époux Noailla ont fait le voyage Paris-Rome ? À l'époque, il n'y avait quand même pas tous les moyens que nous avons aujourd'hui. Je ne suis pas arrivée à les compter, d'ailleurs, parce que c'est très, très courant. Ils vont à Rome, ils déposent une demande, ils déposent une supplique, ils déposent un mémoire, ils rencontrent le pape ou les papes parce qu'ils se succèdent. Et à chaque fois, les papes leur donnent du travail. Non, c'est pas mal, mais il faut plus. Vous savez, comme les professeurs à l'école, oui, c'est pas mal, mais c'est pas très bien. Donc, on refait le travail. Alors là, vous avez trois étapes, entre autres 1920, 1922, 1924. 1920, c'est la supplique, première supplique écrite par Marthe, qui est transmise. Alors c'est très habile, elle est transmise au pape alors que l'on fête la canonisation de Marguerite Marie à Rome. Donc, habilement, on donne la supplique à l'évêque d'Autun, parce que notre évêque d'Autun, bien sûr, participe à la canonisation, c'est Monseigneur Berthoin, et donc il transmet la supplique. Réponse, c'est très bien, sans doute, c'est intéressant, mais on veut l'accord de tous les évêques. Ah, donc, travail, on va essayer de collecter l'accord de ces évêques. Alors, les époux de Noailles sont aidés quand même par un certain nombre de personnes qui connaissent, qui ont des relations. Et en 1922, vous allez avoir un mémoire qui va être écrit par Marthe, 36 pages très denses, suivi de plusieurs appendices. Et à nouveau, on transmet cela au pape. Entre-temps, on a changé. Benoît XV est décédé et c'est Pie XI qui succède. Et le pape dit... C'est très bien, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il nous faut l'accord du peuple entier. Il nous faut un accord universel, parce qu'on veut une fête. Vous voulez une fête universelle. Il faut que tout le peuple soit d'accord. Donc, pétition. On va faire une pétition, une lettre circulaire. Bon, à l'époque, on ferait ça avec Internet, hein, mais une pétition qui va circuler dans le monde entier. Le nombre de pays. De pays, d'évêchés, de communautés, d'ordres qui vont souscrire à cette pétition, qui vont signer la pétition, est absolument presque indénombrable, tant il y en a. Et finalement, donc c'est en 24 hein, que la pétition est lancée, et finalement, le 25 mars 1925, Marthe demande officiellement, cette fois, une encyclique. Elle y tient à son encyclique. Tant qu'il n'y aura pas une encyclique, la fête ne pourra pas vraiment être instituée. Et le pape Pie XI semble finalement se rendre à de tels arguments. Qui pourrait résister d'ailleurs à une telle femme quand elle a cette détermination? C'est impossible hein, de résister aux femmes quand elles ont une telle détermination. Georges est beaucoup plus en retrait. Georges est beaucoup plus... Oui, il est en retrait, mais Marthe fonce. Hein. Hier, quelqu'un me disait très justement, Marthe de Noailles, c'est la réunion des deux figures de Marthe et de Marie. Et c'est vrai. Marthe de Noailles, c'est une orante, une priante. Vous savez, tous les matins, c'est 2h30 de prière à genoux. C'est la messe, c'est l'adoration, c'est le pèlerinage à Rome tous les jours. Mais en même temps, Marthe, c'est celle qui écrit, c'est celle qui donne des conférences plusieurs fois par jour au musée du Héron. C'est celle qui, rencontrant l'archevêque d'Ouganda, décide de racheter les petites esclaves qui sont tenues en esclavage là-bas et qui arrive à en racheter 600 pratiquement en quelques mois. Il y en aura plusieurs mille après. Marthe de Noailles, c'est tout cela. C'est la vie de prière de Marie et la vie active, si j'ose dire, de Marthe. Bref, alors, nous arrivons là à la fin. 25 mars, jour de l'Annonciation. Elle envoie vraiment, elle écrit au souverain pontife officiellement pour demander cette encyclique, et cette fois, cette demande sera reçue sans autre exigence, et nous aurons donc Quas Primas, que nous fêtons cette année, signé le 11 décembre 1925, et qui va instituer donc cette fête du Christ-Roi, et le 31 décembre 1925, ce sera la fête solennelle au Vatican, à laquelle assistent les époux de Noailles, qui sont bien sûr aux premières loges quand même à Saint-Pierre, de 6h du matin à 13h30, ils assistent à toutes les cérémonies. Et le soir, Marthe aurait dit à son mari, je crois que 1926 me fera entrer dans l'éternité. Eh bien, elle ne croyait pas si bien dire, puisque quelques temps plus tard, au retour de Paris, vous connaissez la fin tragique, les époux reviennent à Paris, et au début février, le premier vendredi du mois, le 5 février 1926, Marthe, dès 6h du matin, est à la visitation, comme pratiquement tous les jours, surtout le premier vendredi du mois, elle se confesse, elle communie, elle prie beaucoup en ce premier vendredi du mois, très important à Paris. Elle retourne au musée du Héron, où une de ses amies, secrétaire, lui a préparé un petit déjeuner. Et les deux femmes s'attablent pour le petit déjeuner. Quand elles vont s'écrouler, toutes les deux, elles sont asphyxiées par une émanation d'oxyde de gaz, par un appareil de chauffage qui ne fonctionnait pas très bien. Et ainsi disparaît cette femme qui a tant œuvré pour la fête du Christ-Roi et à laquelle, je crois, il fallait quand même un petit peu rendre hommage ce matin. Et quand on voit, je le disais aussi hier, parce qu'il y a des archives très intéressantes sur Marthe de Noailles, eh bien, quand on voit la somme très très grande des condoléances qui ont été envoyées à Georges après le décès de son épouse, de la part des évêques, des archevêques, des hommes d'État, du monde entier, on se dit quand même que cette petite bonne femme de rien du tout, ignorée des parodiens bien sûr, eh bien, quel rayonnement elle pouvait avoir. Bien, alors voilà, rapidement résumé. Maintenant, quelques petites méditations autour du thème du Christ-Roi. Mais je repose ma question, est-ce que l'acoustique, ça va à peu près? Oui? Tout le monde peut comprendre? Il n'y a pas trop de résonance, il y en a. Mais quand il y aura le grand orgue et que tout sera réglé, ce sera formidable parce qu'on aura un acoustique parfait. Hein. Donc, j'espère bien que tous vous avez admiré ce magnifique orgue. Alors, quelques petites méditations autour du thème du Christ-Roi. Donc, dans cette deuxième partie, je voudrais vous présenter donc, des petites méditations, un petit peu philosophiques, avec quelques références philosophiques, saint Thomas en passant, Platon, Aristote, mais Pascal surtout, ce grand penseur du XVIIe. Alors, ces méditations, j'annonce tout de suite, porteront sur quatre points. Premièrement, quel sens peut-on donner au fait que Pilate exige que le motif de la condamnation de Jésus soit écrit en trois langues au-dessus de la croix. Je suis méditée à partir de ces trois langues, en partant d'ailleurs d'un texte de saint Augustin. Deuxièmement, quel sens peut-on donner au mot « univers » lorsqu'est décidé lors du Concile de Vatican II que cette fête liturgique du Christ-Roi portera le titre de fête du Christ-Roi de l'univers. L'univers. C'est merveilleux, l'univers. Ils iront la chanter ce matin, l'univers. On va faire une petite méditation là-dessus. Trois, pourquoi la notion de Christ-Roi apparaît-elle a priori comme très largement antithétique, c'est-à-dire paradoxale, surprenante quand même, que le Christ soit déclaré roi, lui qui meurt vaincu sur une croix dans des conditions atroces, quel curieux roi. D'ailleurs, ses contemporains posaient la même question. Enfin, nous montrerons comment cette antithèse apparente peut être dépassée et pourquoi la fête du Christ-Roi rejoint celle du Sacré-Cœur. Donc, premièrement, saint Jean rapporte, il est le seul d'ailleurs à le faire, que Pilate, c'est leur rapporter les trois langues, que Pilate rédigea un écriteau qu'il fit placer sur la croix et qu'il y était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs », et que cet écriteau était écrit en trois langues, en hébreu, en latin et en grec. La royauté du Christ, aussi paradoxale qu'elle puisse paraître, alors je reviendrai un petit peu plus loin sur cet aspect paradoxal, est donc proclamée à tous, et Pilate veut qu'elle soit connue de tous, même s'il ne donne lui qu'un sens ironique à cela. Malgré lui, je dirais, il dit quelque chose. Lui, il se place dans l'ironie, mais sans le savoir, il affirme quelque chose de plus important. Saint Augustin, qui commente ces trois langues, dit que, réunies sur la même tablette, elles rendaient intelligible pour tous ceux qui regardent la croix le motif de la condamnation. Elle disait la royauté du Christ. Quel étrange motif de condamnation! Condamner quelqu'un parce qu'il est roi, justement, ça fait réfléchir. Le motif de la condamnation, elle disait la royauté du Christ non seulement aux Juifs, mais encore aux Grecs et aux gentils, c'est-à-dire aux Romains, c'est-à-dire à l'univers tout entier. Mais toutefois, tout le monde ne pouvait pas la comprendre de la même façon, cette affirmation « le roi des Juifs ». Le latin, c'était la langue des Romains. Et les Romains, c'était ceux qui recherchaient, à ce moment-là, la conquête matérielle et militaire, les biens de ce monde, la gloire. Alors pour eux, un roi, Eh bien, c'est celui dont la puissance est visible, la puissance est matérielle, la puissance est militaire. C'est un empereur, c'est César. Pour les Latins, c'est ça. Le grec, c'était la langue des savants, la langue des philosophes. On dirait aujourd'hui des intellectuels. Alors, un roi, pour cela, ça doit être quelqu'un qui est roi par son intelligence. L'hébreu était la langue des juifs, considérée comme représentant la vie spirituelle. Donc un roi, c'est celui qui l'est par sa dimension spirituelle. Alors il est intéressant, il m'a semblé intéressant, d'opérer un rapprochement avec ce que Pascal, ce grand philosophe du XVIIe, dans ses Pensées écrit quand il parle de trois ordres différents. Il y a, dit-il finalement, dans le monde, dans la réalité, trois ordres de réalité, trois ordres différents. L'ordre, dit-il d'abord, des corps ou de la chair, celui qui caractérise, c'est Pascal qui le dit, les rois de ce monde, les riches, les capitaines. On est dans l'ordre, dit-il encore, des rois charnels, rois de chair. Ben, on est chez les Latins, l'ordre des corps, de la chair, latin. Deuxième ordre, l'ordre des gens d'esprit. Alors attention, esprit au sens d'intelligence, l'ordre des savants, l'ordre des philosophes. Et Pascal donne l'exemple d'Archimède. Archimède, hein, ce grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, l'ordre de ceux qui mettent l'intelligence au premier plan. Et puis, et c'est un autre ordre, et il y a une distance infinie, d'ailleurs entre tous les ordres, mais entre les deux premiers et celui qui vient maintenant, une distance infiniment plus infinie, dit Pascal. Alors ça, moi, ça me plaît de parler d'infiniment plus infini, parce que déjà infini, j'arrive pas à comprendre, mais alors infiniment plus infini, n'est-ce pas à dire que là, on est en présence de quelque chose qui dépasse effectivement notre intelligence, notre puissance matérielle, qui est d'un autre ordre. Et quel est donc cet ordre, infiniment plus infini que les autres? Eh bien, c'est l'ordre du cœur, l'ordre de la charité, l'ordre de la sainteté, et Pascal donne comme illustration Jésus-Christ. C'est l'ordre de Jésus-Christ. Donc, et il dit ceci, je cite un petit passage de Pascal, « Il eût été inutile à notre Seigneur Jésus-Christ pour éclater dans son règne de sainteté, de venir en roi charnel. » Inutile de venir en roi pour les Latins. « Mais il y est bienvenu en roi, mais avec l'éclat de son ordre, l'ordre de la charité, du cœur, et de la sainteté. Ainsi, si tous les hommes, quelle que soit leur langue, quel que soit l'ordre où ils se situent dans la société, sont appelés à reconnaître la royauté du Christ, c'est que cette royauté n'est pas de ce monde charnel, social ou politique. Jésus n'est pas le roi d'un royaume charnel, il est le roi de l'univers. Alors, même si les Romains et les Grecs le voient comme quelqu'un que l'on proclame, que l'on a proclamé roi, ils ne doivent pas se tromper d'ordre. Son ordre à ce roi-là, sur sa croix, c'est l'ordre du cœur, l'ordre de la charité, l'ordre de la sainteté. Et je répète, il y a une distance infiniment infinie qui sépare cet ordre-là des autres. Alors, roi de l'univers, deuxièmement, quel sens peut-on donner à univers dans Christ, roi de l'univers? La réforme du Concile de Vatican II a placé la fête du Christ-Roi au dernier dimanche de l'année liturgique, alors qu'auparavant c'était le dernier dimanche d'octobre. Mais dernier dimanche de l'année liturgique, c'est aujourd'hui pour nous. On va rentrer la semaine prochaine dans la nouvelle année liturgique. Le dernier dimanche de l'année liturgique donc lui conféra une dimension eschatologique fondamentale, attestée par le titre nouveau qui lui est donné dans le Missel romain de 1970, fête du Christ roi de l'univers. Dire que le Christ est roi de l'univers, c'est bien dire qu'il n'est pas roi de tel ou tel royaume. Il n'est pas roi de France, il n'est pas roi d'Amérique, il n'est pas roi de Russie, il n'est pas roi de tel ou tel royaume sur cette terre. Il n'est pas un roi charnel, je reprends l'expression de Pascal. Ce génitif de l'univers est particulièrement intéressant en ce qu'il ouvre une dimension infinie et totalisante du temps, de l'espace, du monde, de l'humanité. Ce que nous avons chanté tout à l'heure l'illustre parfaitement. Cette dimension infinie et totalisante. On peut penser aussi au psaume 72. Il dominera de la mer à la mer, du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et là encore, comment ne pas songer aux belles méditations pascaliennes sur les deux infinis, l'infiniment grand et l'infiniment petit. L'univers est infiniment grand, infiniment petit, infiniment complexe, infiniment riche. Et on se perdrait à essayer, on ne peut pas y arriver d'ailleurs de toute façon, à essayer d'explorer cet infini. Mais l'infini nous approche de cette royauté de l'univers, infiniment petit, infiniment grand, infiniment complexe, infiniment riche. Et Dieu apparaît comme le roi de cet univers. Le roi, c'est-à-dire le créateur, sans doute. Alors là, tous les philosophes, d'une façon ou d'une autre, l'ont dit, que ce soit Platon qui parlait de démiurge, Aristote qui parlait de premier moteur, le premier moteur, celui qui a donné le mouvement au monde. Mais aussi, donc il est le créateur, mais aussi celui qui le maintient. Alors ça, je trouve cette idée intéressante. Les philosophes, là encore, ont retrouvé cette idée et ils ont parlé de création continuée, la création qui se continue à tout moment. Ce qui veut dire que si Dieu cessait de porter la création, eh bien, mes amis, immédiatement, nous irions dans le néant. C'est parce que Dieu soutient le temps, soutient la création, nous soutient, que le monde dure. D'un seul coup, tout pourrait s'effondrer dans le néant. Alors ça, création continuée, c'est celui qui récapitule tout et qui en assurera la transfiguration finale, le salut final. Il est le roi du temps et de l'être. L'être. Là aussi, les philosophes ont beaucoup médité sur l'être. Sans lui, je répète, le monde sombrerait dans le néant. Parfois, d'ailleurs, on se dit qu'il est en train de sombrer dans le néant. Ce n'est pas encore le néant total. La notion de l'univers renvoie à la totalité, à la fois du monde naturel, mais aussi des mondes culturels, intellectuels, spirituels. Alors, monde naturel, ça aussi, on l'a chanté. Hein. Les abîmes, le soleil, la lune, les arbres, etc. L'univers renvoie à universel. Le roi de l'univers est le roi de tous et pour tous. Troisièmement, cependant, on semble se heurter avec la notion de Christ roi à une réalité très largement antithétique et paradoxale. Paradoxale hein, au sens étymologique, paradoxa, contre l'opinion courante, contre l'opinion, la première idée qui nous vient, c'est que le Christ sur sa croix ne ressemble vraiment pas à un roi. Donc c'est une réalité antithétique et paradoxale. Il est peut-être bon, et même salutaire, que la notion de Christ roi soit surprenante, soit antithétique, paradoxale. Car ainsi, elle est stimulante, je trouve, et féconde. Pascal, encore lui, avait bien souligné à maintes reprises combien pouvait être stimulante une pensée antithétique, ou du moins une pensée en tension, ou une notion en tension comme celle de Christ roi. Quand il dit par exemple, Pascal, que l'homme est à la fois le plus faible et le plus grand des créatures, un misérable roseau, mais un roseau pensant, tout le monde a étudié ce texte au cours de sa scolarité, j'espère, enfin je ne sais pas si ça se fait encore, mais... Quand il disait que l'homme est un être vil et même abominable, et cependant semblable à Dieu, quand il disait que la religion chrétienne était à la fois sagesse infinie et folie, sagesse et folie. Alors certes, l'idée de royauté renvoie a priori à la puissance, à la domination, mais le Christ roi de l'univers ne l'est pas à la façon de nos rois, sa royauté n'est pas de ce monde, même si elle se déploie et se réalise dans ce monde. Car si le Christ est roi, comme étant le très haut, il est aussi le très bas, comme le disait Christian Bobin, le très haut et le très bas. S'il est roi, c'est un roi apparemment vaincu. C'est un roi qui n'a pas une cour et des courtisans, mais il a des disciples et des apôtres. C'est un roi qui ne fréquente pas les riches et les puissants, mais les pauvres, les prostituées, les publicains, les méprisés, les laissés pour compte. C'est un roi qui n'a ni serviteurs, ni courtisans, mais des amis, et des amis qu'il sert, verbe servir, et auxquels il lave les pieds. Pas beaucoup de rois charnels qui lavent les pieds de leurs serviteurs. On saisit donc que l'idée de royauté peut renvoyer à quelqu'un d'apparemment faible et même vaincu. Et cependant, il faut bien dépasser les apparences. Car la royauté de ce roi-là, elle est invisible, elle est immatérielle. Elle est l'infini contenu dans le fini. Elle est la puissance au cœur de la faiblesse, la divinité au cœur de l'humanité. L'infini contenu dans le fini, la puissance au cœur de la faiblesse, la divinité au cœur de l'humanité. Proclamer le Christ roi, c'est proclamer qu'au cœur de nos misères, de nos détresses, de nos petitesses, se tient une puissance qui, tôt ou tard, sera victorieuse. C'est porter envers et contre tout une telle espérance. Croire au Christ roi, c'est croire que le bien triomphera du mal, que le bien régnera, que la justice l'emportera sur l'injustice, que la vérité triomphera du mensonge, que la vie triomphera de la mort. Comme il est dit d'ailleurs dans la si belle préface que nous allons entendre tout à l'heure à la messe de ce jour, hein, très belle préface, hein, où il est dit que c'est croire par-delà les apparences et malgré elles en, je cite, « un règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix ». Saint Paul le disait déjà dans Romains 14, 17, quand il affirmait que le royaume de Dieu n'est pas une question d'honneur ou d'apparence, mais qu'il est, je le cite, Saint Paul, « justice, paix et joie dans l'Esprit Saint ». Justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Cependant, il faut maintenir la tension en affirmant que ce royaume, qui n'est pas de ce monde, doit advenir continuellement dans ce monde. Il n'est pas de ce monde, mais il doit advenir dans ce monde. Et pour cela, il a besoin de nous, les hommes, de toutes nos actions, de toutes nos positions, de tous nos engagements, de toutes nos positions familiales, professionnelles, sociales, politiques. Et là, on peut retrouver un règne social. De tous nos engagements, donc, pour que ce règne de paix, d'amour, de justice vienne. Il ne suffit pas de dire que ton règne vienne. Combien de fois on le dit que ton règne vienne? Pour pas que ce soit un vœu pieux, il faut travailler à sa venue. C'est pourquoi l'antithèse présentée est en quelque sorte dépassée quand on considère la loi fondamentale que nous donne le Christ roi, la loi d'amour. Car en tant que roi, il a le pouvoir législatif. Un roi a le pouvoir législatif. Parfois, il a aussi l'exécutif, le judiciaire. Il a au moins le pouvoir législatif. Et le Christ, roi, a un pouvoir législatif. Il a instauré une loi fondamentale, la loi de l'amour. D'où quatrième et dernier point. Le Christ est roi, et comme tout roi, donc il légifère. Il nous a donné une loi, c'est la grande et unique, finalement, loi de l'amour. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Benoît XVI, a dit, dans l'Angélus de la solennité du Christ roi de l'univers, en novembre 2008, je le cite, j'ai retrouvé ce beau texte, « Le royaume du Christ n'est pas de ce monde, mais il porte à son accomplissement tout le bien qui, grâce à Dieu, existe dans l'homme et dans l'histoire. » Il porte à son accomplissement tout le bien. Si nous mettons en pratique l'amour du prochain, selon le message évangélique, alors nous laissons place à la seigneurie de Dieu et son royaume sera réalisé au milieu de nous. Si, au contraire, chacun ne pense qu'à ses propres intérêts, le monde ne peut qu'aller à sa ruine. Fermez les guillemets, c'était Benoît XVI qui disait cela lors de la fête du Christ roi en 2008. En nous rappelant cette loi fondamentale donnée par le Christ, la fête du Christ roi, ne rejoint-elle pas celle du Sacré-Cœur ? Alors, nous comprenons pourquoi le jubilé de cette fête du Christ-Roi se conjugue si bien, la Providence est là, si bien avec celui des grandes apparitions à Marguerite Marie. Nous comprenons pourquoi Marguerite Marie et Marthe de Noailles méritent l'une et l'autre, malgré leur réserve et leur humilité, que nous les mettions aujourd'hui toutes les deux à l'honneur en cette belle fête du Christ roi. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Michel, de nous avoir éclairé sur tous ces points. Merci beaucoup. Nous avons demandé pour compléter, et puis tout à l'heure, la messe avec les lectures et l'homélie éclairera aussi. Nous avons demandé à notre évêque de pouvoir aussi nous dire, comme vous en avez fait l'ouverture à la fin de la conférence, comment la fête du Christ roi rejoint le Sacré-Cœur, et notamment avec Dilexit Nos que le pape a écrit l'an dernier pendant l'année du jubilé du Sacré-Cœur.
Franchement, j'aurais préféré continuer d'écouter Madame Simonin jusqu'à la messe, parce que j'ai appris plein de choses que je ne connaissais pas. En particulier, cette figure dont j'avais entendu parler, de Marthe Noailles, mais je ne la connaissais pas du tout, comme vous en avez parlé. C'est toujours intéressant de voir des femmes ardentes. Vous n'êtes pas parente avec Marthe, mais pourtant vous avez cette même ardeur. Vous n'avez pas remarqué ? Bon. Alors, je ne pense pas pouvoir vous dire ce que j'avais préparé parce que ça va être trop. Et puis, il ne faut pas vous fatiguer. Une petite boutade pour commencer. À un moment, j'ai entendu que Marthe avait prédit sa mort. Alors, on peut tous prédire notre mort, mais la date, c'est une autre question. Figurez-vous que j'ai connu un ermite, qui était très original, et il n'avait pas voulu être soigné par les médecins parce qu'il n'avait jamais cotisé à la sécurité sociale. Voilà. C'était une époque où il disait « ça coûte trop cher », donc il avait dit je ne mérite pas d'être hospitalisé puisque je n'ai pas cotisé. Il a souffert le martyr avec un cancer. Il refusait même les calmants, c'était un drôle de personnage. Et sachant cela, il habitait dans la Drôme depuis Marseille, j'avais décidé d'aller lui dire au revoir un jour, au revoir. Parce que je savais qu'il était vers la fin du pèlerinage. Et j'arrive, et puis une ermite femme qui était là dit « Non, vous ne pouvez pas le voir parce qu'il est trop fatigué ». Je dis, tant pis, vous lui direz que je suis passé lui dire bonjour. Et puis elle dit, oh ben quand même, vous êtes venu de loin. Écoutez, il célèbre la messe maintenant dans un fauteuil, parce qu'il est très fatigué, et passez à la fin de la messe, mais vraiment, vous restez 3 minutes, pas plus. 3 minutes. Bon. Alors je vais le voir. Il me reconnaît tout de suite. Il me parle d'une de mes petites sœurs. Et puis je suis resté 5 minutes, il me bénit, plutôt il me dit, je lui demande sa bénédiction, et il me dit, regarde dans quel état je suis, qui de nous deux a le plus besoin de bénédiction? Et du coup, il m'a dit, bénis-moi. Donc j'ai béni ce père qui était pour moi un père très sage, j'étais jeune, tout ça. Bon. Et pendant la journée, une sœur me dit, figurez-vous que le père Emmanuel, il s'appelait comme ça, je crois que tu l'as connu, toi. Tu ne l'as pas connu? Si, bien sûr, oui. À Montmorin, le père Emmanuel dit « Oh, ce serait bien que le Seigneur vienne me reprendre le jour de la Saint-Joseph, 19 mars, ou le jour de l'Annonciation, 25. » Très bien. Et il se trouve que le jour où j'étais passé le voir, c'était le 19 mars. Très bien. Arrive le soir, moi j'étais rentré, et plus tard la sœur m'a raconté que elle avait dit au père Emmanuel, « Oh quand même, on est bien content que le Seigneur n'ait pas exaucé votre prière. » C'était 8h, 9h du soir. « On est bien content qu'il ne l'ait pas exaucé et on veut bien vous garder encore parmi nous. » Et il a ajouté, « Ma sœur, la journée n'est pas encore terminée. » La journée n'est pas encore terminée et il est mort à 11h du soir. C'est extraordinaire, ça. Extraordinaire. Donc, voilà, des personnes qui sont capables de prédire leur mort. Enfin, des personnes qui ne se suicident pas, évidemment. Ça, c'est autre chose. Voilà. Alors, quelques petits points qui sont disparates. Il faut que j'en choisisse parce que... Écoutez, je commence et puis on s'arrêtera quand il faudra s'arrêter. Christophe disait, il faut faire le lien avec Dilexit Nos. À vrai dire, je ne l'ai pas beaucoup fait. Sauf sur un point que je commence à vous dire. On entend bien, ça va? Bon, parfait. Le pape François dit que le règne de l'amour du Christ dans notre vie, le règne de l'amour du Christ dans notre vie, la façon dont le règne du Christ se déploie, s'exerce dans notre vie, aboutit à trois choses. La gratitude, la tendresse et la paix. Gratitude, la tendresse et la paix. Et donc, en une journée comme celle-là, nous ne pouvons que souhaiter les uns pour les autres que cet amour du Christ, ce règne de l'amour du Christ, nous libère de tout ce qui s'oppose à la gratitude, de tout ce qui s'oppose à la tendresse et de tout ce qui s'oppose à la paix. Ça va, Marthe, pardon, j'ai dit Marthe. Madame Simonin, elle incarnait tellement Marthe que... Nous savons ce qu'est le contraire de la gratitude. C'est l'aveuglement. C'est ne pas voir le bien, ne pas le reconnaître. C'est l'égoïsme. C'est la suffisance. C'est l'état d'un cœur qui est tourné seulement vers lui-même. Tel celui du pharisien, de la parabole du pharisien et du publicain, qui ne prie plus. Il prend Dieu à témoin qu'il est un homme de bien. Dieu n'est pas prié, il n'attend rien de Dieu. Dieu est un faire-valoir de sa justice à lui, le pharisien. Là, il n'y a aucune gratitude. Il y a une espèce d'enfermement satisfait sur soi-même. Bien, le règne du Christ est à l'opposé de cela. Je ne suis pas venu faire ma volonté. Tout ce que je dis, je le reçois de mon Père. Père, en tes mains, je remets mon esprit. La vie de Jésus est entièrement une vie de communion avec le Père, vous l'avez dit aussi d'une certaine manière, et elle est une vie qui reçoit tout du Père. Une vie de gratitude, une vie eucharistique, une vie d'action de grâce. Deuxième élément, donc, nous savons ce qu'est le contraire de la tendresse. Ô combien ! Franchement, aujourd'hui, le monde manque de tendresse. Les communications manquent de délicatesse, c'est le moins qu'on puisse dire. Elles manquent de respect, elle manque souvent d'estime de l'autre. Elles sont marquées, ces communications, par la dureté, par la rigidité, par les condamnations sans appel, etc., etc. Oui. Eh bien, l'amour du Christ, quand il commence à régner en nous, nous fait quitter cet espace de la dureté, cet espace, au fond, de l'insensibilité à la souffrance et à la joie des autres. Troisième élément, donc, la paix. Elle est goûtée, cette paix, par ceux qui sont pauvres, qui ont un cœur de pauvre. Elle est une attente de ce que nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes. La paix est toujours un don de Dieu. Voilà, je voulais vous dire ces petites choses en introduction. Un deuxième point, je l'emprunte à Joseph Ratzinger. C'est une brève méditation, comme vous avez faite tout à l'heure, Madame Simonin. Dans la prière du Notre Père, nous demandons que le règne du Christ, le règne de Dieu, au fond, le règne du Christ, c'est la gloire du Père, c'est la gloire de Dieu, que son règne vienne, que ton règne vienne. Je reprends ici une réflexion très intéressante, en tout cas qui m'a beaucoup intéressé, de Joseph Ratzinger. Que ton règne vienne. Par cette demande, nous reconnaissons avant tout le primat de Dieu. Quand Dieu n'est pas là, rien ne peut être bon. Quand Dieu n'est pas là, rien ne peut être bon. Là où on ne voit plus Dieu, où on ne voit pas Dieu, l'homme déchoit et le monde se dégrade. C'est vraiment des paroles aujourd'hui prophétiques. Qui peut dire que le monde en train d'oublier le règne du Christ est-il un monde qui est en train de se construire, hélas, nous le voyons souvent se dégrader. Et là, on pourrait mettre des points de suspension et donner tant d'exemples. Jésus établit au cœur humain, dans le cœur humain, une priorité. Il vient inscrire une priorité vivante dans notre cœur humain. Laquelle ? Le règne de Dieu. Ce règne signifie la seigneurie de Dieu. Ce qui veut dire que nous acceptons le vouloir divin comme critère de notre vie. Nous acceptons que de nous laisser déplacer, transformer, purifier aussi bien sûr, par le bon vouloir de Dieu, devient le critère de jugement de notre vie. Voilà. Cette volonté implique que nous reconnaissions que le droit de Dieu n'est pas une notion juridique extérieure à la vie, mais que le droit de Dieu est la clé de notre bonheur. L'ordre des priorités que Jésus nous indique nous rappelle ce récit de l'Ancien Testament dans lequel Dieu demande au jeune Salomon, qui prend des responsabilités importantes, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne, ou plutôt demande-moi ce que tu penses que je veux te donner. » Et alors, Salomon demande un cœur écoutant, qui est synonyme du discernement entre le bien et le mal. Alors, le commentaire de Ratzinger ici est très intéressant. Dieu fait la louange de Salomon, parce que Salomon n'a pas demandé, comme il aurait été si facile de le faire, la richesse, les biens matériels, la gloire, la mort de ses ennemis, et même pas une longue vie. Mais une chose, priorité absolue, une seule chose, vraiment essentielle, un cœur écoutant, un cœur docile, un cœur de pauvre. La capacité de discerner le bien du mal. Aussi Salomon obtient-il tout le reste par-dessus le marché. La première chose, c'est un cœur docile, pour que ce soit Dieu qui règne et non pas nous. Que ce soit Dieu qui règne et non pas nous. Le règne de Dieu vient à travers le cœur écoutant. C'est son chemin. C'est intéressant cette expression. Le chemin du règne de Dieu, c'est le cœur humain écoutant. C'est pour cela que nous devons prier sans cesse. Prier pour le règne de Dieu revient à dire à Jésus, fais que nous soyons à toi, Seigneur. Pénètre en nous, vis en nous. Rassemble dans ton corps l'humanité dispersée, afin qu'en toi tout soit soumis à Dieu et que tu puisses remettre l'univers au Père, afin que Dieu soit tout en tous. On a le temps d'encore passer encore un petit moment, tu me dis, hein? Si on s'arrête, on s'arrête. Bon, on va s'arrêter là. On a fait le quart de la conférence, c'est comme ça, c'est bien. Mais ça suffit largement. Merci beaucoup.